Bienvenue dans 100 ans de cinéma et des poussières sur Prune. Tout de suite, retrouvez Alexis et son invité pour une heure de discussion autour d'une thématique de cinéma. Funny little two-bit
town where nothing's real. Et oui, bonjour et bienvenue, re-bienvenue dans cette émission 100 ans de cinéma et des poussières qui revient, c'est donc une émission mensuelle qui revient donc tous les mois comme son nom l'indique pour parler de cinéma avec un invité ou une invitée qui choisit le thème, la thématique du jour et qui vient nous en parler pendant une heure ça passe très très vite et donc on va enchaîner très vite. Alors on reçoit aujourd'hui Agathe Sauget, bonjour.
Bonjour Alexis.
Et merci beaucoup d'être présente avec nous. Agathe, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es donc une spécialiste un peu du cinéma tout de même.
Eh ben, je ne sais pas si je suis une spécialiste, mais en tout cas j'aime beaucoup ça depuis plusieurs années. Et voilà, j'aime découvrir des choses et écouter ton émission Alexis aussi.
C'est très gentil.
Et puis, j'en découvre.
Et puis tu as travaillé à...
À la Cinémathèque française.
À la Cinémathèque française, ouais. Donc c'est un petit peu la classe.
Ouais, c'est un petit peu la classe, ouais. C'était cool. J'ai appris plein de choses, c'est super. Et puis aujourd'hui, je travaille dans un centre de formation audiovisuelle. Voilà.
Et voilà, donc... qui forme des jeunes un BTS audiovisuel notamment, et où j'enseigne également.
Fait.
Donc on est collègues quelque part. Voilà, donc voilà. Eh bien, tu as choisi comme thématique les films catastrophes. Voilà.
Tout à fait.
Alors c'est très large, et on va attaquer tout de suite. Qu'est-ce que c'est tout d'abord que les films catastrophes?
Eh ben, c'est une très bonne question et personne n'est d'accord, j'ai l'impression, sur la définition des films catastrophes. Alors, je ne sais pas si on peut tenter une petite définition. En tout cas, on ne sera peut-être même pas d'accord tous les deux. Qui sait sur cette définition?
On peut essayer.
Moi, en tout cas, dans les films catastrophes, évidemment, un catastrophe, ça pète un peu. Hein. Un film catastrophe, ça parle de choses qui pètent, un peu qui explosent, hein, en ce qui me concerne. Mais j'ai remarqué souvent que quand on parle de films catastrophes, il y a beaucoup de genres qui se mélangent. Et du coup, moi, quand je parle de films catastrophes, et c'est vraiment un genre que j'apprécie beaucoup, assez populaire, il y a déjà des choses que j'ai tendance à enlever dans la définition. Alors, c'est ma proposition, hein, je te laisse rebondir, Alexis, évidemment, hein, et ce ne sera pas forcément la même pour tout le monde. Mais déjà, moi, dans les films catastrophes, j'enlève un peu tous les films d'invasion extraterrestre, parce que je trouve que c'est déjà à lui tout seul un genre. Je trouve qu'il y a déjà plein de choses à raconter autour de l'invasion d'extraterrestres. Et du coup, même s'il y a beaucoup de codes qui se retrouvent, je ne fais pas rentrer les films un peu d'extraterrestres dans cette définition. Pareil sur les films de monstres. Moi, les films de monstres, je ne les fais pas trop rentrer dans ma définition du film catastrophe. Alors, j'aime bien quand même, hein, mais bon, les King Kong, les Godzilla, The Host, tout ça, c'est effectivement catastrophique. Mais ça ne rentre pas, moi, en tout cas, dans ma définition. Et pareil, j'ai vu aussi sur certains sites qui faisaient rentrer aussi dans les films catastrophes les films qui sont, en ce qui me concerne, plutôt post-catastrophiques. Donc, qu'est-ce qui se passe après la catastrophe? Comment on survit?
Les films post-apocalyptiques,
exactement,
comme Mad Max.
Voilà, exactement. J'ai vu Le Livre des Lits 28 jours plus tard, tout ça. Moi, c'est plutôt ce qui se passe après et je ne le fais pas rentrer dans cette définition. Donc voilà, c'est évidemment, je n'ai pas la prétention d'avoir la définition universelle, mais en tout cas, en ce qui me concerne, et ce sur quoi, en tout cas, je suis partie, et quand je parle de film catastrophe, voilà, ça va être tout ce qui va parler de catastrophe au sens vraiment propre du terme, mais avec cette notion un peu accidentelle, on va dire. C'est involontaire, ça peut venir de l'homme, mais ça reste involontaire. Mmh. Ça va créer une grosse catastrophe. Alors après, on pourra voir les petites échelles et les grosses échelles de catastrophe, mais en tout cas, voilà ma définition.
D'accord, mais moi, ça me convient très bien. Ce que j'ai essayé de repérer, c'est plutôt ce qu'on va retrouver dans les films catastrophes. Alors, donc effectivement, oui. Catastrophe, il faut bien qu'il y en ait une. Elle est naturelle ou humaine, mais effectivement involontaire. On suit les aventures d'un héros ou d'une héroïne, voire d'une famille, voire d'un groupe, voire d'un pays, voire de toute l'humanité. Donc c'est très large. Souvent, et c'est à noter quand même dans les films catastrophes, il y a un casting assez lourd, avec des grands acteurs et actrices qui viennent parfois même juste pour une apparition, juste pour pouvoir être tués dans la scène suivante, mais voilà, qui apportent un peu de poids finalement à leur personnage, puisqu'ils sont accompagnés de leur bagage cinématographique. Il y a des effets spéciaux.
Eh oui.
Y en a beaucoup, même parfois. Et donc, ça coûte cher, puisque les acteurs et les actrices chers, plus les effets spéciaux, c'est de la thune. Et donc, c'est un peu plus rare. Je veux dire, pour faire un film catastrophe, il faut de l'argent, il faut une grosse ambition à ce niveau-là, il faut que le film rentre dans ses frais. Ce qui fait que, même si on en voit quand même régulièrement, c'est pas un genre qui exploite les salles plus que ça. Il y a beaucoup de sous-genres, donc ça, tu l'as dit aussi. Il y a aussi, moi, j'ai noté toutes les imitations de Die Hard, donc de Piège de Cristal, qui est un peu un film catastrophe si on veut, surtout dans les suites, 58 minutes pour vivre ou Une journée en enfer, mais effectivement c'est un peu à part, mais il y en a eu plein en fait qu'on suivi, qui s'inspire pas mal de Piège de Cristal, qui l'a pas inventé le genre d'ailleurs, mais qui l'a renouvelé, revigoré quand il est sorti en 87-88, et il y en a qui s'inspirent comme un film avec The Rock par exemple, récent, qui s'appelle Skyscraper, qui conjugue en fait un petit peu La Tour Infernale et Piège de Cristal. Et puis il y a également, tu l'as dit, donc les films de monstres, les films de péril nucléaire, hein, pour le coup, peut être un peu plus. Et puis tous les films de zombies aussi, qui sont des films apocalyptiques, catastrophiques, mais qui sont un genre à part, donc on va peut-être pas trop les aborder. Ce que je me suis permis, c'est d'essayer de réfléchir à ce que pouvait être le but ultime d'un film catastrophe, ce qui pourrait nous aider finalement à le définir. Pour le spectateur, je pense qu'il est avant tout question de faire ressentir au spectateur des émotions fortes, hein, parfois même à la limite des montagnes russes. Et tout ça, ces émotions sont renforcées grâce à l'identification donc des personnages souvent ordinaires dans des situations extraordinaires. Alors des personnages ordinaires qui ressemblent à The Rock ou à Bruce Willis, hein, parfois. Hein. Donc voilà, une identification puis une certaine envie aussi de ressembler à ces personnages. Et puis ce fameux diptyque, à savoir faire peur et rassurer. Donc on est effrayé avec les personnages. Effectivement, quand une comète arrive sur Terre, ça donne pas envie, surtout si c'est montré de manière réaliste. Et puis on est rassuré parce que les gens survivent ou pas. Mais le film se termine et nous, on reprend notre vie habituelle et qui n'est pas heureusement jonchée de catastrophes comme au cinéma.
Et puis je trouve qu'il y a aussi, enfin en tout cas moi en ce qui me concerne, parce que je me suis posé la question, on m'a posé la question pourquoi j'aime autant les films catastrophes. Et en fait, je me l'étais jamais posé, je savais pas trop l'expliquer. Et je pense qu'il y a aussi ce côté un petit peu, fantasme, je sais pas, sain ou malsain, mais de se dire, qu'est-ce que moi je ferais aussi dans ce genre de situation, vraiment de s'identifier, ou ah ouais, moi je ferais ça, ou moi je ferais pas ça, ou de se dire, en cas d'apocalypse, qu'est-ce que nous on ferait aussi, comment est-ce qu'on réagirait, et se retrouver confronté à des trucs, ah ouais, c'est cool, ou des trucs, ah ouais, c'est pas trop moral, voilà. Et moi je trouve ça intéressant dans le film Catastrophe, de voir comment aussi réagissent les personnages, même s'il y a des codes, évidemment, après, très établis, des choses qui reviennent assez souvent, et j'aime bien ça, cette idée.
Mais oui, il y a un côté expérience sociologique, ethnologique presque, sur comment les gens réagissent, et effectivement, c'est une part importante hein, pour la perception qu'aura le public de ces films catastrophes, surtout actuellement, où depuis quelques années, le public est de plus en plus intéressé par les films qui se veulent crédibles, réalistes, etc., et donc, ça fait partie des jauges importantes lorsqu'on juge un film catastrophe, c'est est-ce que les personnages agissent de manière crédible, que ce soit en bien ou en mal hein, d'ailleurs, mais il y a souvent, puisque les films catastrophes présentent la plupart du temps un panel de personnages assez divers, on a souvent droit justement à différentes réactions face à la catastrophe, que ce soit l'altruisme, l'héroïsme ou l'égocentrisme et la survie personnelle.
Tout à fait.
Mais il y a aussi toute la partie famille, c'est-à-dire effectivement on peut aussi, peu importe sa situation familiale, etc., s'intéresser encore plus à une personne qui est dans le même cadre familial que soi, quoi. Donc quelqu'un qui cherche non pas forcément à survivre lui-même, mais à faire survivre sa famille, ses amis.
C'est surtout que je trouve qu'une des, en parlant des thématiques un peu qui reviennent souvent dans les films catastrophes, alors j'en ai listé quelques-unes, alors des fois on les retrouve tous hein, dans les films catastrophes et puis des fois on en prend un petit peu, mais il y a quand même souvent cette recherche de rédemption, de pardon hein, dans les films catastrophes avec le héros qui a une culpabilité, soit la mort de quelqu'un, l'accident de quelqu'un, etc., qui veut se racheter avec son fils, je pense au jour d'après, hein, qui n'a pas vu beaucoup son fils, qui veut se racheter, ou plus récemment dans San Andreas aussi, The Rock a perdu sa fille. Enfin, il y a toujours ce côté-là qui devient un peu prétexte à des fois aller dans l'extrême de vouloir sauver quelqu'un ou de vouloir faire des choses complètement... qui excuse le fait de vouloir faire des choses complètement abracadabrantes où on se dit « mais non, il ne faut pas qu'il fasse ça, c'est trop risqué ». Mais il y a cette recherche de pardon et de rédemption, je trouve, qui est vachement liée aussi, qui est souvent avec le personnage principal. Oui. C'est intéressant.
Il y a vraiment cette notion de galvaniser le personnage. Mmh. C'est-à-dire, mais au sens premier, c'est-à-dire on prend le personnage et on le plonge dans la catastrophe, dans la situation catastrophique, et on voit comment... Et en fait, quand il en ressort, il est le héros. Et mmh. c'est ce passage, justement, qui... Alors, souvent, il faut un personnage un peu... boiteux d'une certaine manière, qui a quelque chose à se faire pardonner pour être d'autant plus efficace, parce que si effectivement on montre comme héros ou héroïne du film quelqu'un qui est déjà surpuissant, sûr de lui, etc., eh bien ça a moins d'intérêt.
Oui, tout à fait.
Il y a moins l'évolution, quoi.
Oui, tout à fait.
Alors peut-être il faut revenir pour pouvoir continuer à définir, parce qu'en fait je pense qu'on finira peut-être à la fin de l'heure à avoir un peu mieux défini les films catastrophes.
Oui.
Parlons un petit peu historique. Ça commence quand les films catastrophes au cinéma ?
Eh ben ça commence, on va dire, en début des années 70.
Alors moi je...
T'es un peu avant ?
Oh ben moi je dirais dès les tout débuts du cinéma.
Alors j'ai essayé de chercher dans les débuts du cinéma si j'avais des films catastrophes et j'ai trouvé quelque chose. Mmh. Alors je sais pas si on peut parler vraiment de premiers films catastrophes, mais on parlait au début les films catastrophes. C'est le spectaculaire, c'est le côté grandiose, un peu magique du cinéma. Et évidemment, au début du cinéma, celui qui a compris que le cinéma était quelque chose de formidable et merveilleux et qu'il fallait en faire quelque chose de grand, c'est Monsieur Méliès. Et j'ai trouvé...
Qu'on salue.
Tout à fait. Mmh. Et j'ai trouvé une première vidéo qu'il a mis en scène. C'est pas vraiment un film catastrophe, parce que ça se veut un peu reconstitution. Donc plutôt documentaire, mais il a mis en scène une éruption de la montagne de Pelée en Martinique en 1902. Et je l'ai vu, c'est d'ailleurs assez impressionnant. Et effectivement, bah oui, ça commence dès le début à se dire comment est-ce que je pourrais montrer quelque chose justement de spectaculaire, de grandiose grâce à ce médium-là. On n'est quand même pas étonné que ce soit Méliès qui prend le pied. Mm-hmm. Mais c'est vrai que, après on retrouve, encore une fois, ça dépend ce qu'on met dans le film catastrophe, mais il y a certains films aussi qui traitent un peu de la catastrophe climatique, ou je pense à Buster Keaton avec Cadet d'eau douce, où on a vu aussi ce genre de...
Exactement, ouais.
Ah ouais, ce genre de, on va dire, de catastrophe climatique, de marée ou autre chose comme ça, mais qui est moins, évidemment, qui est moins traité de la même manière. Ça, je parle des années 70, parce que là, on va vraiment rentrer dans le vif des sujets, mais si tu veux apporter un petit peu de...
Je suis d'accord avec toi. Hein. Pour moi, le film catastrophe, c'est les années 70 aux États-Unis. Oui. Et depuis, effectivement, ça nous a permis... En fait, l'irruption de ce terme va arriver véritablement à ce moment-là. Et le genre lui-même va se codifier véritablement aussi à ce moment-là. Mais avant, on va en trouver des prémices dans toute l'histoire du cinéma. Et donc, j'ai noté, il existe un film britannique qui s'appelle Fire, qui date de 1901.
Je ne connais pas.
Ben non, moi non plus, qui est peut-être le premier film catastrophe, mais bon, j'imagine que il suffit de... Méliès était peut-être même avant. Oh, quoi que ce 1901, c'est les tout débuts de Méliès.
Ouais.
Et puis, en fait, les premiers films catastrophes qu'on fait rentrer rétrospectivement, finalement, dans le cadre, sont des films souvent inspirés par l'actualité. Donc, en 1906, il y a eu le fameux tremblement de terre de San Francisco, donc avec la faille de San Andreas, qui a fait quand même, en 1906, 3000 morts. Et qui a détruit 80% de la ville. Donc c'est un petit peu traumatisant. Et surtout que ça peut se reproduire, c'est bien connu. Il y a eu donc un film plusieurs films qui ont été inspirés de ça, certains très, très peu de temps après la catastrophe. Et puis un autre, là, moi, que j'avais vu, que j'ai noté, qui date de 1923, donc qui est un peu plus tard, qui s'appelle The Shock, donc La Terre a tremblé en français, qui est vraiment, qui correspond pas mal au cadre des films catastrophes d'après. C'est avec Lon Chaney qui était donc un acteur polymorphe, on va dire, qui aimait beaucoup se déguiser, se grimer, jouer des monstres, mais des monstres comme le fantôme de l'opéra ou Quasimodo, qui avait aussi une rédemption, donc avait beaucoup de choses pour eux derrière. Et là, c'est un peu la même chose. Alors, il joue un estropié, comme d'habitude, Et en fait, le film commence, on a toute une moitié de film sur son histoire, sur l'histoire de quelques autres personnages, et puis paf, au bout d'un moment, tremblement de terre. Et donc, effectivement, ça ressemble un petit peu à ce que peut être les films catastrophes d'après. Et puis, il y a eu un autre film, ça s'appelle San Francisco, de 1936. Et puis, autre chose aussi, parce que ça sera important dans le film catastrophe, le 15 avril 1912, le Titanic coule et fait plein de morts. Donc, c'est le 15 avril 1912. En août 1912, il y a le premier film sur le Titanic qui sort. Un film allemand qui s'appelle In Nacht und Eis. Et puis, depuis, il y en a eu énormément. Oui. Voilà. Et puis, 1933, King Kong, avec quand même cette partie... Parce que si le film se bornait à Skull Island, à l'île du crâne, ça serait pas un film catastrophe. Mais comme le monstre ensuite, King Kong, arrive à New York, il y a un petit côté, voilà, on voit tous les prémices. Et puis il y en aura plein dans les années 30, 40, 50 qu'on fait rentrer encore une fois rétrospectivement là-dedans, en Angleterre, aux USA, en Russie même un peu aussi. Mais voilà, on voit cette formation lente et un peu inexorable jusqu'à l'âge d'or du film catastrophe. Qui commence, voilà, on y voit les types avec des gros moyens, un gros casting, et puis donc en 1970 pile, on a le vrai début finalement.
Avec Airport, effectivement.
Qui s'appelle Airport aussi en français.
Oui, tout à fait, qui va lancer un peu le genre du film catastrophe. Alors c'est assez marrant, bon, moi je l'ai vu hein, tardivement et bon, tu vas probablement en vouloir, mais je n'ai pas non plus été complètement, on va dire, envoûtée par le film, même si je trouve beaucoup de qualités et des choses, notamment l'utilisation du split screen que je trouve assez intéressante et très bien. Il y a vraiment des trucs de réalisation, je le trouve très élégant aussi dans sa réalisation.
C'est très soigné.
Ouais, c'est très soigné, c'est très élégant. Et ça c'est sûr que ça, c'est des choses qu'on peut lui donner. Après, bon, la catastrophe, elle démarre, on va dire, 20 minutes avant la fin du film. Donc, effectivement...
Et ça dure 2h30.
Et ça dure 2h30, c'est ça. Donc, du coup, bon, en termes de catastrophe, ça lance, on va dire que ça lance un peu le mouvement. Mais il fera quand même un peu moins de bruit que ce qui va arriver derrière.
Ah, il va quand même.
Il a fait du bruit, ouais, je sais pas s'il a fait beaucoup de bruit.
Ah, si, en fait, il a vraiment cartonné, ouais. Il a vraiment lancé le genre. Et puis, c'est le premier de cette matrice, enfin, qui utilise cette matrice qu'on a évoquée. Gros moyen, gros casting, un peu long, effectivement, avec tout un temps d'exposition où on a le.
Très, très long.
Qui est censé... Alors là, c'est très long.
C'est très, très long.
Où on est censé s'intéresser aux personnages, etc. Ouais. Parce que tout devient plus important dans la catastrophe. Lorsqu'on connaît les enjeux justement des vies des différents personnages, et il y en a beaucoup de personnages, et ils ont tous quelque chose à raconter, même celui qui porte la bombe parce qu'il veut faire un attentat, etc. D'ailleurs, ça, cette partie, je trouve assez efficace. Et puis, il y a toute une partie technique. Hein, on nous explique aussi comment fonctionne un avion et quels peuvent être les problèmes pour que ensuite, quand les problèmes arrivent, on ait déjà tous les éléments en tête et qu'on puisse avancer vers l'action. Et ça a été un énorme carton. Et puis, il y avait quand je disais gros casting, il y a Burt Lancaster. Jacqueline Bisset, Dean Martin, Van Elflin, Jens Seberg, etc. Enfin, oui, il y a du grand monde. Et puis, voilà, c'est très soigné, c'est très propre. C'est un film de prestige, comme on dit. C'est produit par des studios et le film a remporté pas mal d'Oscars aussi.
Ouais.
Et ça, c'est aussi l'une des définitions du film catastrophe dans les années 70. C'est que c'est des concurrents très sérieux aux Oscars.
Ouais, tout à fait, avec beaucoup de budget. D'ailleurs, il y a beaucoup de films catastrophes qui ont été lancés. Alors, un peu après, sur justement les Oscars de contributions spéciales qui ont été attribués, avec le lancement justement des films catastrophes sur des effets visuels et des effets sonores, ça a vraiment lancé aussi sur la technique de réalisation des choses et on les a retrouvés quelques années après justement dans les Oscars. Petite anecdote d'ailleurs dans Airport, je ne sais pas si tu as vu, parce que moi je l'ai vu qu'après avoir vu le film, donc il faudrait juste que je revoie les petites scènes. Il y a Christopher Lloyd qui fait quelques apparitions.
Ah.
Alors j'ai noté, j'ai lu ça après, donc j'ai pas vu, mais voilà, c'est pour la petite anecdote. Christopher Lloyd fait deux apparitions, visiblement, une fois dans un restaurant et puis une fois dans un passager du bus. Voilà, j'ai vu ça, ça m'a fait beaucoup sourire.
Il a été plusieurs rôles. Donc,
voilà, plusieurs petits rôles.
Alors pour info, Christopher Lloyd, c'est le Doc hein, dans Retour vers le futur.
Ça m'a fait beaucoup rire et il faudra que je revoie ça juste pour ça.
Ok, alors après cette tentative de définition et l'arrivée à l'âge d'or, je vous propose une courte page musicale avec une musique tirée d'un des films catastrophes des années 70, parce qu'en fait, ces films-là ont été, je vous l'ai dit, des concurrents aux Oscars très sérieux et ont souvent remporté l'Oscar de la meilleure musique ou de la meilleure chanson. Et c'est notamment... Alors, celui-ci ne l'a pas reçu et n'a même pas été nominé, mais c'est mon préféré. C'est la musique, la chanson du film Airport 3, donc Airport 77, dont on parlera tout de suite après. Et c'est Tom Sullivan qui chante « Beauty is in the eyes of the beholder ». Et je suis désolé pour la qualité, c'est la seule que j'ai trouvée. C'est vraiment tiré d'un vinyle bien, qui craque bien, mais en même temps, ça nous met dans l'ambiance de l'époque. Voilà. À tout de suite.
Beholder,
Le cinéma contre-attaque dans 100 ans de cinéma et des poussières.
Et oui, de retour dans notre émission 100 ans de cinéma et des poussières après cet extrait musical tiré du film Airport 77, donc le troisième du nom de la série Airport. Et c'était Tom Sullivan, donc, qui est un chanteur de cette époque-là américain, aveugle, qui joue dans le film. Il joue au piano ce thème et il se fait tuer juste après. Voilà. Dans la catastrophe, oui. Bien entendu. C'est parce que c'est comme ça. Y a beaucoup de pertes hein, dans les films catastrophes. C'est important. C'est important. Et notamment, parfois, les acteurs ou les actrices principaux, parce que on s'attache à eux et le fait qu'ils décèdent a d'autant plus d'impact. Donc, on vient d'aborder, après une tentative de définition assez complète, l'âge d'or des films catastrophes aux États-Unis, donc en 1970, après l'arrivée de Airport, donc ce premier film. Ensuite, il y en aura plein.
Et oui, il y en aura plein. Et justement, celui qui, à mon sens, encore une fois, pour moi, va vraiment lancer, va vraiment faire péter tout ça, il va y avoir l'aventure du Poséidon. Alors moi, que j'ai vraiment apprécié.
Alors, c'est deux ans après,
en 72.
En 72, ouais, et sur le même modèle un petit peu, mais dans un autre contexte. Pas un avion, mais un bateau.
Tout à fait, un bateau, alors qui est adapté d'un roman qui est sorti... peu de temps avant d'ailleurs, de Paul Gallico, qui s'inspirait d'une expérience, une vraie expérience qui aurait été vécue à bord du Queen Mary. Queen Mary qui a d'ailleurs servi de décor pour ce film. Effectivement, un naufrage, somme toute un peu classique, j'ai envie de dire. Mais
un peu tragique.
Un peu tragique. Voilà, donc le bateau se retourne littéralement, hein, vraiment. Il est complètement à l'envers. Et on va suivre du coup un petit groupe de personnes. Et c'est là que je trouve qu'on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. En tout cas, dans les codes, ça va vraiment codifier encore plus et ancrer un peu plus le film catastrophe avec pas mal de choses hein, dont on pourra reparler. Mais donc on a...
Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît.
Excusez-moi, c'est vrai, j'ai pas l'habitude. Oups, alors ça bouge. Ah oui. Du coup, voilà, on va suivre un petit groupe de personnes qui va pas faire comme tout le monde parce que lui, il va y avoir un leader, un Gene Hackman qui va leader tout ce petit groupe. Mm-hmm. Et grande gueule d'ailleurs, un peu agaçant hein, dans le film. Hein,
Il joue en fait un révérend qui n'est pas très catholique
oui,
en plus.
C'est hein, ça.
Il a tendance à un petit peu à se faire un peu virer en fait de sa chapelle.
Tout à fait. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce film parce qu'on va vraiment suivre des personnages vraiment différents, hein, des jeunes, des plus âgés. Des enfants, enfin voilà, ça va vraiment être un mix de population qui va essayer de survivre et qui va pas faire comme tout le monde parce que Gene Hackman a la bonne solution, il sait, il croit dur comme fer qu'il faut l'écouter parce qu'il y a que lui qui a la bonne réponse. Et c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs pas mal hein, dans le film Catastrophe. Hein. Alors c'est souvent un scientifique d'ailleurs, hein, le scientifique qui prévient ou qui essaye de dire il va se passer quelque chose, attention, écoutez-moi, et puis personne ne le croit. Et puis en fait, il avait raison, évidemment. Donc, ça fait partie de ces petits codes qui vont commencer à arriver avec ce film. Et justement, ça va lancer, c'est ce que je disais tout à l'heure, il me semble, alors j'ai un petit doute, mais il me semble que c'est avec ce film-là que l'Oscar pour une contribution spéciale va être lancé et qui va continuer à récompenser à peu près tous les ans et beaucoup dans les années 70, et beaucoup avec les films catastrophes, justement, une contribution exceptionnelle au cinéma, et c'est principalement dans les domaines d'effets visuels et sonores. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, hein, faut du budget, faut que ça pète, il y a des choses à bien mettre en place pour que ça devienne un bon spectacle. Et du coup, c'est bien parce que ça permet de faire évoluer aussi des techniques. Et,
ouais.
Et voilà.
Et donc, c'est des films qui sont très convaincants hein, quand on les regarde encore aujourd'hui. C'est des effets visuels, donc des effets pratiques, hein, comme on dit, qui sont faits sur place avec aussi, bien sûr, des fonds du matte painting, comme on dit, c'est-à-dire où on rajoute le fond ensuite en surimpression sur la pellicule. Mais les gens font vraiment les cascades, le décor est vraiment là, il y a vraiment des explosions, ou dans le cas de Poséidon, des explosions et de l'eau.
Et de l'eau, oui, très froide.
Très froide. Effectivement, ça reste toujours convaincant aujourd'hui, même s'il y a une petite patine, bien entendu, de la pellicule qui date un peu, mais pas tant que ça. Et puis effectivement, quand je dis que tous ces films ont remporté beaucoup d'Oscars, c'était beaucoup des Oscars donc, de contribution exceptionnelle, mais aussi des Oscars techniques ou la musique. Parfois aussi, bien sûr, pour les acteurs et les actrices, puisque Shirley MacLaine... Shelley Winters, pardon, a gagné l'Oscar du meilleur second rôle pour l'aventure du Poséidon, notamment. Et puis, effectivement, ça, donc, ce film commence, continue le chemin tracé par Airport 2 ans avant, et à partir de là, ça va s'accélérer. Et puis, on va avoir d'autres films, des films qui s'inspirent. Voilà, en fait, la machine d'Hollywood, telle qu'on la connaît, va commencer à se mettre en marche avec son grand principe de l'exploitation.
Mmh,
et,
oui.
Et donc, le film Catastrophe devient un film d'exploitation où on exploite un filon déjà existant. Et c'est pour ça que les codes, véritablement, on va les retrouver. C'est parce que c'est le principe pas mal à Hollywood. C'est-à-dire, si ça marche, on fait la même chose.
On continue.
On continue. Et on donne juste des petites variations, etc. Donc, il va y avoir 3 suites à Airport. Il va y avoir une suite à l'aventure du Poséidon. Elles ne sont pas toutes de la même qualité, et on va revenir là-dessus rapidement, mais surtout en 1974, on va avoir le pic véritable de cette époque, de cette grande époque des films catastrophes, avec la sortie la même année de 3 films qui seront tous les 3 des énormes succès. Donc on aura la suite de Airport 75, qui est beaucoup plus orientée action que le premier, c'est-à-dire on rentre très vite dans le vif du sujet. On a toujours un gros casting, hein, Carlton Heston en plein milieu, et puis qui pose la question d'un avion qui perd ses pilotes de manière assez dramatique. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des scènes vraiment convaincantes, c'est-à-dire vraiment beaucoup d'argent dans le film. Les scènes d'avion en extérieur, enfin de l'avion qui vole dans le ciel, sont vraiment filmées.
J'ai pas vu, tu vois, faudrait que je le voie, comme quoi j'ai pas toujours pas tout vu, hein, film catastrophe.
Bien sûr, on n'aura jamais tout vu. Et puis, il y a une scène assez impressionnante où ils font passer finalement d'un avion militaire à l'avion de ligne qui a perdu ses pilotes. Ils font passer un pilote avec un fil, voilà. Et ils l'ont vraiment fait. Et alors, même s'ils n'ont pas... la cascade, quand on voit à l'intérieur, heureusement, c'est dans un décor, mais voilà, ils ont vraiment pendu quelqu'un à un fil. Et c'est, voilà, c'est franchement impressionnant encore aujourd'hui. Et puis, voilà. Et ensuite, donc, cette même année, 74, il y a eu, toujours avec Carlton Heston, d'ailleurs, un tremblement de terre, Earthquake, qui est aussi l'un des grands films de cette époque-là, que moi, j'ai pas eu le temps de voir. Pourtant, j'ai vu beaucoup de films.
Hein, moi non plus, tu vois, tremblement de terre... Je ne l'ai pas vu non plus, j'ai pas eu le temps de le voir.
Mais bon, ça reste dans le même cadre, dans le même contexte, et ça a été un énorme succès. Et puis surtout, alors je pense, moi, le grand film de 74, c'est The Towering Inferno, donc La Tour Infernale, qui est un projet assez aberrant dans l'histoire du cinéma.
Alors oui, alors moi je connais pas trop l'histoire de ce projet de la Tour Infernale, donc je vais te laisser en parler, mais en tout cas ça fait partie de ces films catastrophes, je trouve, qui pareil ont pas trop vieilli, quoi. Ah, ça marche, hein, c'est hyper bien.
Parce que tout est là, quoi.
Ouais.
Enfin, heureusement, ils n'ont pas vraiment tué des gens, mais la plupart des choses qu'on voit à l'écran ont vraiment été tournées. Et c'est important, finalement, dans une expérience de cinéma.
Non, ça marche assez bien. Alors, je vais te laisser en parler un petit peu plus, mais... bon, vas-y, je te laisse en parler, je reviendrai après sur autre chose.
Rapide, pourquoi je dis que c'est un projet aberrant? C'est parce qu'en fait, et ça s'est vu de nombreuses fois dans l'histoire du cinéma, il y a plein de fois où il y a des projets concurrents qui se montent au cinéma, avec des films, ça peut être à Hollywood, mais même en France aussi, on a déjà vu ça, où en fait il y a deux bonnes idées, enfin où la même bonne idée qui est utilisée par deux studios en même temps, deux réalisateurs, et ça a été le cas de Deep Impact et Armageddon, qui sont sortis la même année, de Volcano et Le Pic de Dante, par exemple, ça c'est les années 90, et donc il y avait deux projets concurrents, deux films catastrophes sur une tour, un gratte-ciel en feu, et de comment on survit. Et les deux étaient adaptés de bouquins différents qui parlaient exactement du même sujet. Okay. Et donc, chose rare et je pense unique dans l'histoire du cinéma américain, les deux studios ont bossé ensemble.
Incroyable.
Et donc, ils ont adapté les deux bouquins en même temps, puisque il y avait The Tower et The Glass Inferno, donc ils ont appelé ça The Towering Inferno, déjà le titre. Ensuite, ils ont doublé le budget.
Oui, c'est pas négligeable pour un film catastrophe.
Et donc ça se ressent. Oui. Donc 2 fois plus de stars et deux acteurs principaux qui sont parmi les plus énormes stars de cette époque-là, c'est Paul Newman et Steve McQueen, plus William Holden, plus Faye Dunaway, plus Robert Vaughn, plus Richard Chamberlain, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de monde. Et surtout, donc, il y a ces deux acteurs principaux, Paul Newman et Steve McQueen, qui étaient pas mal, ils ont le même âge, ils étaient pas mal en concurrence l'un et l'autre à cette époque-là pour être à la tête du box-office. Ça a posé tout plein de problèmes qui mériteraient une émission à part entière. C'est-à-dire, En fait, il y avait une mini guéguerre entre les deux et par contrat, ils ont stipulé qu'ils avaient le même nombre de dialogues.
Ah oui, d'accord.
Exactement le même nombre de dialogues. Et aussi, ça a été un gros problème pour faire l'affiche du film, parce qu'il faut toujours mettre quelqu'un en premier. Donc, ils ont trouvé un compromis qui se retrouve encore sur les versions DVD, sur les jaquettes DVD. Hein. C'est-à-dire, vous avez, si je ne dis pas de bêtises, Steve McQueen qui apparaît en premier et Paul Newman qui arrive à deuxième, mais plus haut dans l'affiche. Donc,
ça s'équilibre.
Et William Holden et Faye Dunaway, c'est... Alors, William Holden est un peu après et Faye Dunaway est un peu en dessous. Ouais, sympa. Hein.
Ouais, une femme, évidemment.
Et donc, effectivement, le film... plus la thune, enfin il y a, de l'argent et c'est, chaque plan est impressionnant et pour le coup on arrive très vite dans le vif du sujet, la catastrophe arrive assez rapidement et ça dure et c'est vraiment impressionnant. Donc Paul Newman joue l'architecte du building qui s'oppose finalement à ses financeurs qui eux ont essayé de faire des coupes budgétaires aux dépens de la sécurité, et Steve McQueen joue le chef des pompiers donc qui est finalement un peu le vrai héros aussi du film, qui se permet d'ailleurs de dire au personnage de Paul Newman, consultez-nous s'il vous plaît vous fabriquez des buildings parce que vous les faites très mal.
Et oui, tout à fait, un peu moralisateur à la fin justement. Et d'ailleurs, je crois que le film s'introduit par merci aux pompiers, au travail qu'ils font, etc. Je me demande si ça n'avait pas été aussi en lien avec un truc qui s'était passé au World Trade Center justement avant. J'ai cru lire ça.
Alors, en tout cas, les deux bouquins, enfin au moins l'un des deux bouquins à la base du film s'inspire, enfin est en fait une fiction sur et si ça brûlait dans le World Trade Center.
C'est peut-être ça, ouais, voilà, c'est peut-être pour ça que j'avais ça en tête. Donc non, je ne connaissais pas l'histoire de la Tour Infernale. Donc effectivement, on comprend le gros truc, on en prend plein la vue hein, avec effectivement ce gros budget. Et je crois d'ailleurs que Irwin Allen, qui co-réalise, il me semble, le film...
Oui, parce qu'il y a deux réalisateurs
oui,
en
plus.
Oui,
c'est ça, bah oui, faisait partie du projet de l'aventure de Poséidon. Alors, c'est pas lui qui réalise, mais je crois qu'il est dans l'équipe de prod, hein, il produit.
Alors, Irwin Allen, à la base, c'est un scénariste et producteur pour la télé américaine. Mm-hmm. Et il s'est retrouvé comme ça propulsé le roi d'Hollywood dans les années 70, puisqu'il a effectivement produit, réalisé ou co-scénarisé pas mal des films justement de cette époque. Époque-là, comme la Tour Infernale, l'aventure du Poséidon, etc. Et donc, Irwin Allen était marqué en premier sur les génériques, parce que finalement, c'était un peu une marque de fabrique, un peu la grosse star. Et ça n'a pas duré très longtemps, hein, c'est-à-dire ce moment de carrière pour lui, puisqu'après, il est retourné à la télé. Il a fait d'autres films, il a produit ou réalisé d'autres films catastrophes, mais pour la télévision américaine. Voilà. Des choses qui sont d'ailleurs tout à fait recommandables, mais avec moins de thunes.
Normal, j'imagine. Mais en tout cas, j'aime bien cette histoire un peu du lancement des films catastrophes, parce que pour la petite anecdote, je reviens un peu en arrière, mais justement sur Irwin Allen, et tu vois, je savais pas cette histoire de la Tour Infernale où les studios avaient bossé ensemble, c'est que personne n'y croyait trop à son film de l'aventure de Poséidon. Je crois j'ai lu un article comme quoi ils ont failli tout arrêter 15 jours après le début en disant non c'est mort, et qu'il a quand même, il s'est quand même vachement battu pour faire ça, et on lui a dit non mais ton film il marchera pas, ça sert à rien. Et puis en fait je crois qu'il y a eu 8 nominations aux Oscars ou un truc comme
ouais,
ça
était un gros carton, donc gros après, carton, ouais. Après il avait carte bleue comme on dit,
tout à fait,
et puis voilà, donc le 1974, ces trois énormes films, gros succès, etc. Alors à partir de là, il y en a, on va avoir du film catastrophe un peu à toutes les sauces, alors du film catastrophe classique tel qu'on l'a fait apparaître ici, mais ou alors du film catastrophe où on va faire un film qui varie un petit peu sur la thématique. Soit c'est historique, comme dans l'Odyssée du Hindenburg en 75 de Robert Wise, Le Pont de Cassandre de 76 de George P. Cosmatos avec quand même Martin Sheen et Burt Lancaster, La Dernière Vague, un film australien de Peter Weir avec Richard Chamberlain, Le Toboggan de la Mort, qui est quand même un super titre.
Oui, j'ai pas vu, ça donne envie.
C'est pas vraiment un toboggan, c'est les montagnes russes.
Ah oui.
Mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est quand même un film qui, au moins sur le principe, accepte complètement d'être une fête foraine, en fait. Ouais. et c'est ce qu'on demande de pas mal de films catastrophes. Avalanche, Attaque d'abeilles, Météore, déjà avec Sean Connery en 79, Cité en feu, L'Ouragan, SOS Titanic, déjà le Titanic. Et puis, en 1979, ça va marquer un peu la fin, le glas, ça va sonner le glas du film catastrophe de cet âge d'or, avec en fait l'échec consécutif la même année de trois grosses productions qui étaient censées justement continuer ça. Donc il y a Météore, donc avec Sean Connery que j'ai cité, qui s'est planté.
Et j'ai pas vu, non.
Bah, je l'ai vu, et pourtant, ouais. C'est très
c'est
agréable.
Bien, ouais,
ouais, c'est bien. C'est produit par AIP, donc c'est la boîte qui a commencé à faire bosser Roger Corman au début.
Okay.
Donc, c'est parfois, mais c'est l'un de leurs plus énormes budgets qu'ils aient jamais eu. Il y a eu également Airport 80. Quatrième épisode et de loin le pire, Airport 80, le Concorde. Alors il y a des moments marrants, hein, mais il y a Alain Delon donc, qui conduit le Concorde et il y a vraiment des dialogues absolument aberrants, très, très sexistes, etc. Enfin, c'est vrai que c'est celui qui tient le moins la marée, et alors que celui de 77 était vachement bien, avec Jack Lemmon, qui joue un peu le Bruce Willis, mais il fallait y penser, Jack Lemmon en Bruce Willis, et c'est vraiment très efficace, je crois que c'est le meilleur, avec toujours un gros casting derrière. Et puis, autre gros bide, c'est Le jour de la fin du monde, donc un film avec un volcan vers Hawaï, avec Paul Newman et William Holden, qui revenaient, et Jacqueline Bisset aussi, donc il y a pas mal d'habitués en fait, du film catastrophe, qu'on en fait deux, voire trois, à cette époque-là. Et donc, les trois échecs successifs de ces films-là à énorme budget, et puis parfois étaient vraiment pas bons du tout, hein, comme Airport, eh bien, on sonnait un peu le glas du film catastrophe qui va vivoter dans les années 80. On va en retrouver quelques-uns, ou à la télé, comme je disais, et puis ça va revenir dans les années 90. Et avant d'aborder les années 90, je vous propose une autre page musicale avec une musique tirée d'un film catastrophe plus récent, mais qui s'inspirait véritablement de cette vague des années 70. C'est Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing, sur la bande originale d'Armageddon. À tout de suite.
Treasure. Don't wanna close my eyes.
Z et de AAX.
Et ouais, de retour dans 100 ans de cinéma et des poussières avec notre invitée Agathe Segey pour parler des films catastrophes et l'heure passe très très vite. C'était donc un extrait de la bande originale de Armageddon en 1998, chanté par le groupe Aerosmith et qui reprenait là bah, du coup pas mal les schémas des années 70 des films catastrophes. Donc on en a parlé de cette âge d'or de 70 à 79 aux États-Unis et puis maintenant parlons de c'est très urgent, ce renouveau dans les années 90 des films catastrophes et ça c'est vraiment ta partie.
Et oui, bah les films catastrophes des années 90, c'est quand même ce qui m'a fait découvrir les films catastrophes et ce qui a lancé, alors mon amour, je ne sais pas, mais mon grand intérêt en tout cas pour le genre. Alors avant vraiment d'en parler, d'en détailler quelques-uns, je me dis que ce serait peut-être pas mal qu'on les catégorise un petit peu. Et puis voilà, après on en parlera. Ce que je me suis dit, bon, il y en a eu beaucoup, hein, on en a déjà parlé, déjà même dans les années 70, mais il y en a eu beaucoup aussi dans les années 90.
Ouais.
Et puis ça va un petit peu se localiser différemment. Alors déjà, on va avoir des films catastrophes à plus petite échelle, hein, qui vont être soit dans un lieu bien précis ou dans une ville. Hein, je pense à Daylight, mm-hmm. avec Stallone. Hein,
dans un tunnel,
excellent. Hein, Daylight, vraiment, que j'aime vraiment beaucoup.
On pourrait parler de Speed aussi, qui est juste dans un bus.
Speed,
hein, quand même.
Hein, tout à fait, dans un bus. Voilà, où là, on est un peu, bon, on est dans un accident un peu volontaire. On est un peu dans l'attentat, hein, là aussi, avec Speed. Oui.
Complètement
même. voilà, donc on a parlé évidemment de la tour infernale San Andreas aussi, qui est localisée donc avec The Rock, hein, qui sauve un peu le film, hein, parce que San Andreas, c'était pas terrible, hein, c'était un peu dur.
Mais c'est plus récent, ça.
Mais c'est plus récent, oui, tout à fait. On est en 2015, je crois, avec San Andreas. Donc voilà, on est sur quelque chose à plus petite échelle. Et puis évidemment, on va avoir après la catastrophe mondiale, presque même planétaire,
ouais.
Où là, on va avoir différents... en tout cas, peut-être plus continental, parce que des fois, c'est pas dans tout le monde entier. Bon, on va évidemment avoir les astéroïdes, hein, ça, évidemment, Deep Impact et Armageddon, sorti la même année, d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, pour la petite anecdote, ils ont dû d'ailleurs modifier dans Deep Impact, qui est sorti quelques mois avant, d'ailleurs, ils ont modifié un des dialogues de Morgan Freeman qui disait « This is not Armageddon » et du coup, ils ont été obligés d'enlever ça, évidemment. Mm. Mais voilà, donc voilà, ça a été un peu les deux, la guéguerre entre les deux.
Ouais, et puis à noter quand même que si les films catastrophes reviennent comme ça au goût du jour dans la fin des années 90, c'est aussi et surtout grâce à l'évolution de la technique et l'apparition des images de synthèse au cinéma avec... comme pierre angulaire Jurassic Park en 93.
Oui, tout à fait. Oui, évidemment, ça aide beaucoup. On en parlait tout à l'heure, hein, que les effets visuels sont très importants dans les films catastrophes. D'ailleurs, Armageddon, que je trouvais vraiment... Enfin, moi, quand j'étais petite, je trouvais vraiment magnifique. Enfin, c'est vraiment très, très beau. Ah bah, quand ah là là, c'est très, très beau.
Qu'on le veuille ou non, Michael Bay,
oui.
Ça a de la gueule. Hein.
Ça a de la gueule, effectivement. Je crois qu'ils avaient même eu, pour la première fois dans Armageddon, ils ont pu tourner avec la NASA. Ils ont pu tourner dans la NASA. Je crois que c'est la première fois que la NASA acceptait.
C'est possible.
Donc, voilà, c'est vraiment tapé fort. Quoi. Donc voilà, pour les plus connus, on va aussi avoir les catastrophes un peu climatiques.
Ouais.
Donc on va avoir, donc on en parlait, hein, tremblement de terre bon, dans les années 70, mais dans les années 90, même 2000, on a Le Jour d'après aussi, Roland Emmerich, un trait que j'aime beaucoup, hein, en film catastrophe, je trouve qu'il marche très bien, très efficace, il fonctionne vraiment bien.
Alors lui aussi, hein, Roland Emmerich, c'est un habitué du genre,
ouais.
Et qui lui aussi sait tenir une caméra,
ouais, tout à fait.
Et on lui devait quand même avant ça, avant Le Jour d'après, il a fait Independence Day en 96 et Godzilla en 98.
Eh oui, tout à fait.
Des films de monstres ou d'invasion, mais qui ressemblent aussi pas mal à des films catastrophes.
Oui, c'est vrai, c'est ce que je disais au début, tu vois, ils sont pas dans ma liste pour moi, ouais. Je les sors un peu, mais effectivement, les codes se ressemblent quand même. Voilà, on a aussi dans les climatiques, on a aussi quand même Twister quand même, hein, en 96 aussi.
Et qui a fait un énorme carton, gros carton au box-office, Twister réalisé par Yann Debond, donc qui a fait aussi Speed, et qui misait, et c'est du coup assez rare pour le noter, sur des acteurs et des actrices pas très connus.
Ouais.
Helen Hunt et Bill Paxton, c'est plutôt des seconds couteaux, des acteurs de télé autrement. Et du coup, c'est intéressant parce que c'est un film qui vaut avant tout pour le public, je veux dire, pour la communication, pour la catastrophe et effets. Et les effets, donc les tornades, etc.
Très beau film aussi, hein, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et puis Volcano et le Pic de Dante, dont tu parlais aussi tout à l'heure, qui sont sortis, pareil, je crois, à peu de choses près, la même année, en 97, voilà, sur des volcans. Et puis alors, on a aussi le côté un peu épidémique et sanitaire,
et
un film catastrophe que j'aime bien aussi, avec Alerte, qui, 95 il me semble.
Ouais.
Qui lance aussi un peu la machine dans les années 90. Et pour la petite histoire, tu parlais tout à l'heure de souvent les films sont... Il y a toujours une guéguerre entre deux films, donc Le Pic de Dante, Volcano, etc. Bah, Alerte, ça a failli être le cas. Alors, je ne savais pas, mais pareil, en lisant un article, j'ai vu que Ridley Scott était en préparation d'un film très similaire d'Alerte qui s'appelait The Hot Zone, qui avait commencé. Alors, il y avait déjà eu je ne sais plus combien de millions, je crois, presque la moitié du budget démarré.
Ouais.
Et ça s'est arrêté au bout de quelques semaines. La Fox a arrêté la production. Alors, ça devait être avec Jodie Foster et Robert Redford. Donc, voilà, sur un peu la même histoire un peu qu'Alerte, hein, sur un virus, la gestion d'un virus, hein, très, très actuel, isolé dans un coin des États-Unis.
Et c'est très pertinent de le revoir aujourd'hui.
Oui, oui, tout à fait. On ne voit pas du tout les films de la même manière, tout comme Contagion, hein, d'ailleurs, de Steven Soderbergh. Donc là, on est après les années 90, on est en 2011. Mais pareil, je l'ai revu il n'y a pas longtemps et de le voir aujourd'hui, ça fait un drôle d'effet quand même. Hein,
c'est... Ouais. Bah oui, heureusement. Alors, heureusement, nous, on a eu une version... Les maladies qui sont présentées dans Alerte ou dans Contagion, c'est des espèces de grippe du cerveau, de peste moderne. Donc c'est vraiment l'horreur. Nous, on a juste eu une Covid qui est
évidemment
déjà bien tragique, hein, mais qui est heureusement pas au niveau de ces films-là.
Ça fait relativiser, on va dire. Et puis il y a, alors je le mets un petit peu à part, il y a aussi tous ceux qui vont être un peu inspirés de faits réels, et t'en parlais, donc avec le Titanic.
Ben, voilà.
Et évidemment, hein, le gros Titanic en 97. Il y a eu aussi World Trade Center, un peu...
D'Oliver Stone.
D'Oliver Stone, tout à fait, qui est sorti un peu plus tard, évidemment, après les années 2000, forcément. Et puis The Impossible, également aussi, donc qui va reprendre la fameuse grosse vague en Thaïlande. Et voilà, donc c'est aussi, il y a aussi des films, tu le disais tout à l'heure, donc de faits réels qui vont servir de matrice pour après raconter des films catastrophes, mais vont être traités un peu différemment que le film catastrophe classique, étant donné qu'on raconte un fait aussi réel.
Ouais.
Alors après, il y a les petits inclassables. Alors il y en a que je mets aussi dans les films catastrophes et qui sont un petit peu différents. Mais avant ça, je vais quand même parler d'un que je n'ai pas non plus réussi à classer. Et tu le sais bien, c'est quand même aussi mon préféré, Fusion. Fusion, sortie donc de John Amiel, sortie en 2003, qui n'a pas fait beaucoup de bruit, je ne comprends pas. Et je veux absolument vous en parler parce qu'il faut le regarder. Alors juste sans vous spoiler, sans vous dire, donc avec quand même un beau casting, Fusion. Hein, Aaron Eckhart et
Hilary
Swank,
Delroy Lindo, Stanley Tucci,
Checky Cario aussi, non, vraiment un super casting. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Alors, ça reprend vraiment tous les clichés et tous les codes du film catastrophe comme il se doit, hein, du petit scientifique qui nous montre, qui essaye d'être vachement dans la de nous expliquer ce qui va se passer pour qu'on comprenne, etc. Tout y est, la culpabilité, vraiment tout y est. Mais on va pas dans l'espace, on va dans le centre de la Terre, et ça, je trouve quand même que c'est cool, quoi. C'est très rare, et du coup d'avoir osé faire ce pari là. C'est très beau de découvrir des choses dont on ne sait pas spécialement ce qu'il y a à l'intérieur. Et la proposition, je la trouve hyper intéressante. Donc je voulais absolument vous en parler. Vraiment, regardez-le. Si vous aimez un tant soit peu les films catastrophes ou même pas, ça pourra vous réconcilier. Vraiment, regardez ce film.
Très agréable à regarder.
Et puis, pour terminer, je voulais aussi parler un peu d'un classable que moi, je classe dans les films catastrophes. Mais par exemple, avec mon copain, on n'est pas trop d'accord. Enfin, en tout cas, il me pose souvent la question. C'est des films qui traitent de catastrophes, mais qui ne vont pas reprendre les codes vraiment spectaculaires du film catastrophe, mais qui vont quand même, à mon sens, traiter de la catastrophe. On va avoir par exemple Mélancolia, qui est sorti en 2011, de Lars von Trier, qui parle littéralement quand même d'une catastrophe mondiale, hein, une planète qui vient s'écraser sur une autre. C'est quand même... ça finit d'ailleurs assez tragiquement. Hein.
Probablement.
Ouais, voilà. Mais qui va en profiter pour traiter d'autres choses, de vraiment s'intéresser aux personnages. On va aussi avoir Tech Shelter, excellent film de Jeff Nichols, toujours en 2011, qui va aussi parler un peu de la psychologie, du personnage. Alors bon, là, on se pose la question, mais ça vient quand même sur cette idée du personnage qui croit dur comme fer qu'il va y avoir vraiment une catastrophe naturelle, personne ne le croit. Donc, on retrouve un peu des codes, mais on n'a pas le même côté spectaculaire qu'on peut avoir. Il y a Perfect Sense aussi, je ne sais pas si tu as vu, de David Mackenzie aussi, toujours en 2011, décidément, je viens de me rendre compte que tous ceux-là sont de 2011, qui va également, un peu sanitaire, hein, maladie qui fait perdre les sens, avec Ewan McGregor et
Eva Green.
Eva Green, merci. Et puis un j'apprécie tout particulièrement, c'est Le Dernier Jour avant la Fin du Monde, avec Keira Knightley et Steve Carell. Je ne sais pas si tu as vu aussi qu'en 2012, vraiment hyper, hyper mignon, hyper intéressant. Pareil, hein, le postulat de départ, hein, bon, bah voilà, un astéroïde va s'écraser dans 2 semaines sur la Terre, qu'est-ce qu'on en fait ? Et voilà, et tous ces traitements, tout ce qui ressort un peu de ces films catastrophes qui sont un peu inclassables, ben c'est quand même cette idée que les personnages vont forcément avoir un comportement en lien avec cette catastrophe qui va se passer. Alors même si on ne la voit pas, même si ça ne pète pas, etc. Je trouve que jouer un peu sur le côté social, le côté émotion des personnages à fond et se centrer là-dessus, c'est un peu intéressant. Et d'ailleurs, c'est là où, par exemple, on parlait de Deep Impact et Armageddon, c'est là où d'ailleurs ils se séparent un petit peu, ou même si Deep Impact, on voit pas mal de la catastrophe et on voit ce qui se passe, on est vachement aussi concentré sur les personnages. Et même si j'aime m'en prendre plein la tronche, c'est vrai que c'est aussi intéressant ce côté-là.
Certes.
Voilà, j'ai déjà dit tout ce que je voulais dire sur... Ça va très vite, effectivement.
Ça va extrêmement vite. Moi, je ne pouvais pas aborder les films catastrophes sans parler de Airplane, Y a-t-il un pilote dans l'avion,
effectivement.
Qui sort en 1980, soit l'année d'après la chute du film catastrophe au box-office américain, et qu'on pourrait sous-titrer Le Dernier Clou sur le cercueil du film catastrophe, puisqu'il en fait une parodie générale de tous les films qui se passent dans des avions, des films catastrophiques, et qui s'inspire très largement donc des codes posés, et qui est surtout très réussi, très drôle et très bien mis en scène par les Zaz, hein, avant que ce soit le nom d'une chanteuse, c'était le nom de Zucker, Abraham et Zucker, et ils sont, voilà, c'est des grands cinéphiles, et puis donc ils s'inspirent de la série Airplane, les quatre, enfin de Airport, et puis aussi surtout d'un film que j'ai vu hier soir qui s'appelle Zero Hour, un film de 57 avec Dana Andrews et Sterling Hayden, dont le film reprend quasiment, enfin beaucoup des mêmes dialogues, en fait c'est vraiment une nouvelle adaptation du scénario, notamment avec l'empoisonnement de la moitié des passagers et surtout des pilotes, parce qu'ils ont mangé du poisson et pas ils ont choisi le poisson et pas la viande dans le repas, avec un personnage aussi qui de médecin qui garde toujours beaucoup son sérieux et qui va inspirer directement le personnage bien sûr de Leslie Nielsen, qui est génial et qui va lancer sa carrière dans la parodie. Donc on remercie finalement ce film qui est pas un film ridicule, hein, Zero Hour, qui est un film très bien fait, etc., très très efficace, mais c'est impossible à voir aujourd'hui parce qu'on a vu Airplane. Voilà, puis bon, on a parlé beaucoup des États-Unis, mais il y a eu bien sûr d'autres pays, hein, où il y a eu des films catastrophes. On pense la Corée, au Japon bien sûr, ou alors un film norvégien qui s'appelle The Wave, qui parle d'un glissement de terrain suivi d'un tsunami et inspiré d'un fait réel, qui a donné une suite d'ailleurs qui s'appelle The Quake, donc le tremblement de terre, en 2018. En France, alors j'ai noté un film qui est comme un film catastrophe, mais sans catastrophe, c'est Casque Bleu, réalisé par Gérard Jugnot en 1994. Il y a un peu une catastrophe puisqu'il y a une prise d'otage, ça se passe pendant la guerre des Balkans, mais où on a en fait ces personnages auxquels on s'est attaché avant, parce que ça commence comme une comédie un peu française habituelle, une comédie dramatique, et puis ensuite cette situation extraordinaire les met dans les oblige justement à se révéler. Donc ça, on peut aussi avoir comme ça des choses un peu différentes. Donc Gérard Jugnot, réalisateur de films catastrophes, fallait y penser. ça se termine là-dessus, hein, notre émission. À noter qu'actuellement, il y a encore des films catastrophes, il y a encore même des acteurs abonnés aux films catastrophes comme The Rock, donc oui. Dwayne Johnson, ou Gérard Butler, qui a fait récemment Geostorm et Greenland.
Très bien, Greenland.
Et puis Morgan Freeman.
Et oui.
Qu'on retrouve dans Alert, dans Hard Rain, en tant que président dans Deep Impact, qu'on trouve dans la trilogie Olympus Has Fallen avec Gerard Butler, et voilà, qui aime bien ce genre de film. On finit en musique rapidement avec et merci beaucoup Agathe.
Merci Alexis de m'avoir invité.
D'être venu. C'était super intéressant, c'était trop court bien entendu, donc il faudra revenir une prochaine fois pour parler d'une autre thématique. Et on termine avec un extrait de la bande originale de Godzilla. C'est Puff Daddy et Jimmy Page avec la reprise donc de Cashmere, c'est Come With Me. Au mois prochain, donc on se retrouve le mois prochain pour parler de John Carpenter. À bientôt, merci.
Merci.
100 ans de cinéma et des poussières touchent à sa fin. Mais pas de panique. Rendez-vous le mois prochain pour encore plus de cinéma.